La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale.
Bonjour Dom.
Salut Félix.
On fait un petit retour dans le temps parce qu'on veut souligner la participation des premiers Gaspésiens aux deux guerres mondiales. Quand je parle de premiers Gaspésiens, je parle de Micmac.
Un thème qui est récurrent par rapport à la Gaspésie, à toutes les fois qu'il y a une guerre ou un conflit, c'est que c'est vraiment, puis je veux pas trop utiliser l'expression « terreau fertile », mais c'est le cas. Du moins, ça l'a été le cas, historiquement. Ça prend pas tant une fois qu'on se retrouve dans un conflit que, oups, tout d'un coup, là, les recruteurs cognent à nos portes. Et puis, le même phénomène s'est produit durant la Première Guerre mondiale. Essentiellement, la première expédition, si on veut, le premier groupe de soldats qui sont partis du Canada pour se rendre en Europe, il n'y avait pas de Gaspésiens dans cette expédition-là. La première division, eux, ils ont parti en octobre 1914. En fait, une de leurs dernières escales avant de partir, là, la traversée de l'Atlantique, a été ici, justement, dans la baie de Gaspé. Là. Il y avait une flotte, le nombre exact de bateaux m'échappe, quand même une flotte imposante.
Oui, il y a des magnifiques photos qui ornaient la maison Le Gros de Pointe-Saint-Pierre.
Ah, OK. Ouais. Celle-là, je ne l'ai jamais vue.
C'est un... Il y en avait une copie au musée aussi. C'est vraiment là, c'est un panorama photographique avec l'ensemble des... C'est comme découpé là, plein de photos associées parce que c'était beaucoup trop large.
Ouais, c'est ça. Pour... Donc, la première vague de recrutement, ça s'est passé en 1915. Le Black Watch de Montréal. Un régiment qui trouve ses racines, si on veut, dans l'Écosse. C'était un régiment avec les kilts. Puis les kilts, le Black Watch, durant la Première Guerre mondiale, c'était pas seulement durant les parades. C'était dans les tranchées avec les kilts. Là. Puis il y a quand même beaucoup de gens de Gaspé qui ont fait partie du 42e bataillon Black Watch. Puis après ça, il y a eu le 87e bataillon. Ça, c'est les Canadian Grenadier Guards. Eux aussi sont basés à Montréal. En fait, ça, c'est le Black Watch et le Canadian Grenadier Guards. C'est deux unités de milice qui existent toujours à ce jour.
Ils sont situés dans quel coin à Montréal?
À Montréal, le Black Watch est sur la rue ou l'avenue. Je suis pas certain si c'est une rue ou une avenue. Bleury. Et puis, le Canadian Grenadier Guards, eux, sont tout près de McGill. Pas loin du campus principal de l'Université McGill. Sur une rue qui s'appelle l'Esplanade. En gros, là, le gros des anglophones durant la Première Guerre mondiale pour la ville de Gaspé ont fait partie d'une ou l'autre de ces unités-là. Du côté francophone, les fusiliers du Saint-Laurent, eux aussi, ont fait une campagne de recrutement à travers la Gaspésie. Puis c'est ça qui va nous rattacher à nos amis Micmac. 1916, à l'été 1916, ils ont fait le tour de la Gaspésie, comme on fait toujours en 2020, mais le but n'était pas pareil, pour recruter des jeunes soldats. Vont faire partie de leur unité. Le 189e bataillon et les fusils de Saint-Laurent, c'est la même unité. Là. Juste un petit à côté. Là. Issus de ce bataillon-là, on a deux croix de Victoria. Les deux premières croix de Victoria, on va utiliser le terme canadien-français là, qui était à l'époque. Là. Il y a la première croix de Victoria canadienne-française, si on veut, là, c'est Joseph Keble de Saint-Moïse dans la région de Entamqui puis Mont-Joli. Et puis l'autre, c'est Jean Briand, le lieutenant Jean Briand qui a gagné la deuxième Croix de Victoria pour un Canadien français. Puis lui, il était originaire de la vallée de la Matapédia, mais sa famille s'est installée du côté du Bic. Et puis son frère, Jules A. Briand, est devenu le fondateur de ce qui est aujourd'hui, si on veut, TELUS, mais Québec Téléphone.
Il était aussi propriétaire de la première compagnie de pouvoir à Rimouski.
Okay.
Ce qui était une mauvaise traduction d'une Power
Corporation.
Power Corporation, compagnie de pouvoir.
Ouais. Ouais.
Quand c'était plus petit, c'était les coopératives de pouvoir.
Ah, OK. Ouais. Donc, le lieutenant Jean Briand est de cette famille-là.
Parle-nous un petit peu de la Croix de Victoria.
Ah, OK. La Croix de Victoria est la plus haute décoration pour bravoure au champ de bataille du Commonwealth. Au Canada, depuis l'histoire du Canada, là, on a moins de 100. Donc, c'est ça, le 189e bataillon qui trouve ses racines, qui existe, lui aussi, il existe toujours, les fusillés de Saint-Laurent, à Rimouski. Et Rimouski et Matane, je crois qu'il y a
J'avais de mes amis à l'université qui étaient dans la réserve des fusillés de Saint-Laurent, qui avaient comme une espèce d'entente réciproque qui faisait que tu passais du temps, puis il payait une partie des études, exactement, puis tu donnais du temps ensuite.
Exactement, qui est un des facteurs motivants, si on veut, là, pour beaucoup de jeunes de faire partie de la milice, justement. Les recruteurs du 189e bataillon font le tour de Gaspésie, et puis ils font un arrêt à Guescapéguiag. Puis à Guescapéguiag, ils rencontrent un jeune homme, mais en termes de recrue militaire, pas si jeune que ça, à l'époque, 29 ans, Frank Narcisse Jérôme. Frank Narcisse Jérôme, né à Guescapéguiag, un Micmac, se porte volontaire. Là, on parle de 1916. Ce sont tous des volontaires.
Assez avant. C'est une année complète avant l'idée même de conscription ou d'imposition de la conscription.
L'acte, en anglais, on dit le Military Service Act. En français, ça doit être l'acte du service militaire, peut-être.
C'est une bonne question.
Ouais, c'est ça. Mais approximative. Fait que c'est ça. Il recrute le jeune Frank Narcisse Jérôme, 29 ans, de Guescapéguiag, devient membre du 189e bataillon. De fil en aiguille, le 189e bataillon se retrouve en Angleterre. Puis rendu en Angleterre, il fut décidé d'en finir avec le 189e bataillon. Ils prennent les francophones du 189e bataillon et ils amalgament avec le 22e bataillon qui va devenir aujourd'hui le Royal 22e régiment. Donc on est au tout début là, du 22e. Et justement, Joseph Cab et Jean Briand, eux ont fait le parcours que j'explique là, du 189e bataillon vers le 22. Frank Narcisse-Jérôme se retrouve dans le 14e bataillon, Royal Montreal Regiment. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les francophones de l'unité, ils ont mis avec le 22e, ils ont pris les anglophones du 189e et ils ont envoyé du côté du 14e bataillon, Royal Montreal Regiment. Pour ce qui est de à ce moment-là, le soldat Jérôme, il se retrouve, lui, au front à l'automne 1916, tout juste après la fin de la bataille de la Somme. Il n'a pas participé à la bataille de la Somme, mais il était présent là, à la toute fin. Lui est arrivé, si je me souviens bien la date exacte, là, c'est le 12 décembre. En tout cas, c'est décembre. Puis juste un petit rappel, la bataille de la Somme a duré du 1er juillet au 18 novembre 1916 dans la région, justement, de la Somme, qui se trouve à être sud ouest de la ville de Lille, en France.
Dans le nord de la France.
C'est au sud-ouest de Lille, à peu près à une centaine de kilomètres. L'engagement le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité, je crois, jusqu'à aujourd'hui. Certainement jusqu'à ce moment-là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le soldat Frank Narcisse-Jérôme se retrouve dans cette région-là. Le prochain engagement dans lequel il va faire partie, c'est la bataille de Vimy en avril 1917, le printemps suivant. Le lundi de Pâques 1917. C'est ça. Il a participé, il a survécu. Mais entre-temps, ça fait qu'entre le temps que Frank Narcisse-Jérôme se porte volontaire, ça n'a pas été le seul là, de Guescapéguiag. Il y en a eu aussi de Lestigouche. Je pense à un jeune qui s'appelait John Vicaire. John Vicaire, lui, a quand même connu un destin assez tragique. John Vicaire était un jeune Micmac de Lestigouche. Et puis, comme bien des jeunes dans la première et deuxième guerre mondiale, on est incertain de son âge. Quelques entrées dans son dossier où il y a 20 ans, d'autres il y a 17, d'autres il y a 18. Donc, c'est un... Puis, c'était pas rare, puis c'était certainement pas unique au Micmac. C'était plus ou moins monnaie courante. Puis, je sais que j'ai sauté de Frank Narcisse-Jérôme à John Vicaire, mais...
On va revenir au soldat Jérôme dans quelques instants.
John Vicaire, lui, pour les soldats de Lestigouche, eux, principalement, se sont retrouvés dans les bataillons issus du Nouveau-Brunswick. Durant la Première Guerre mondiale, essentiellement, les bataillons étaient régionaux, plus ou moins. Et puis, évidemment, Lestigouche étant près géographiquement du Nouveau-Brunswick, c'est tout à fait normal qu'il s'est retrouvé là. Lui est décédé à la frontière franco-belge entre Noël et le jour de l'an 1915. Son premier engagement, sa première bataille, il tomba au combat.
Mais c'était tôt pour les Canadiens.
C'est ça. Lui a fait partie de la fin de la première vague. Si on peut se rappeler que, essentiellement, le Canada, le premier engagement, c'était la deuxième bataille de Ypres, où le gaz
moutarde
a fait son apparition. Et puis, John McCree a écrit le poème...
In the Flanders Fields.
In Flanders Fields, mais en français, c'est quoi la traduction de ce poème? C'est au champ d'honneur, je crois. Ça s'est passé au printemps 1915. Et puis John Vicaire, lui, est décédé en décembre 1915, essentiellement dans la même région, là, à 20 kilomètres de hip.
Parce mais... qu'on peut rappeler aux auditeurs que la Première Guerre mondiale, contrairement à la Deuxième, on voit la Deuxième Guerre mondiale avec des tanks puis des immenses fronts dans lesquels les Allemands vont partir de Berlin, la Pologne, ils vont se rendre jusqu'à Moscou. La Première Guerre mondiale, on parle plus de 50 km en 4 ans. C'est une guerre qui est beaucoup plus statique, que les combats vont être acharnés, qu'il y a comme une incorporation des nouvelles technologies, tout en conservant une espèce de nostalgie que la guerre, c'est quelque chose de... presque avec l'idée de la guerre en rangée.
C'est un thème récurrent dans l'histoire. Hein. Au début d'une guerre, ça ressemble beaucoup à la guerre qui l'a précédée. On sait souvent comment ça commence, mais on sait jamais comment ça va finir. Puis il y a une évolution ou dévolution, dépendamment de comment on voit les choses.
Il y a des changements.
Donc, la Première Guerre mondiale, t'as absolument raison. C'est on parle d'un territoire quand même assez restreint. Juste pour vous donner une idée, de tous les soldats qui sont morts de Gaspé, qui sont morts durant la Première Guerre mondiale, sont essentiellement tous enterrés dans un radius d'à peu près 140-150 km. Le premier soldat Micmac de la Gaspésie, ou Gaspégawagi, pour nos amis Micmac, était John Vicar. Puis, sur sa pierre tombale, c'est indiqué qu'il avait 18 ans. C'est juste lui, il sait.
Jusqu'à quel point les recruteurs fermaient un peu les yeux sur l'âge des soldats?
C'est un thème qui était récurrent, là, même en Deuxième Guerre mondiale.
Ah, parce qu'il y a un monsieur brillant, Douglas Town, qui avait 15 ou 16 ans.
René Brien, mort sans sépulture connue à Hong Kong.
Hong Kong.
Pour la communauté de Gaspégiag, on a eu Frank Nassé-Géron. Il y a aussi eu Barney Kondo. Barney Kondo aussi est mort au combat. Il est enterré en France. Lui est mort durant la bataille de la Côte 70. Côte 70, qui est un conflit, qui est un engagement qui est un peu oublié par l'histoire parce que ça s'est produit après Vimy et avant Passchendaele, qui ont été deux quand même moments forts de l'histoire militaire canadienne. Et puis, Barney Kondo devient le deuxième Micmac gaspésien à avoir tombé au combat. Barney Kondo, lui, avait été aussi un vétéran là, de la bataille de la Somme, bataille de Vimy, etc. Puis il y a aussi eu Alexander Jerome. Alexander Jerome Senior, lui, est intéressant. Mais ils sont tous intéressants, mais lui est intéressant parce que, pour une couple de raisons. À partir du moment où que lui est arrivé au front, lui, son premier engagement, c'était Vimy aussi, pareil comme Frank Nassé-Jerome. Ça fait qu'on a Alexander Jerome et Frank Nassé-Jerome. Alexander Jerome, lui, faisait partie du 87e bataillon que je parlais tout à l'heure. Lui a participé à Vimy, Côte 70, Passchendaele, tout le kit, là, tous les engagements à partir de Vimy. Survécu la guerre, se porte volontaire encore durant la Deuxième Guerre mondiale. Et il s'enrôle. Il s'est pas juste porté volontaire, ils l'ont pris. Et puis, lui a fait partie de ce qu'il appelait la Veterans Guard. Il y avait dans ton coin, justement, la Grande Vallée, il y avait...
Des surveillants du fleuve?
Ouais, c'est ça. Là, c'était un peu comme une force supplémentaire à la police, si on veut. Là. Ben,
ouais. C'est eux qui faisaient les arrestations, mais ils faisaient les contrôles routiers.
Ouais, c'est
J'ai vu des photos de ça. Il n'y a pas longtemps, c'est la première fois de ma vie que je voyais ça. Vraiment, là, des interceptions pour les vérifications, parce que tout le monde vivait bien sûr dans peur à l'époque des espions allemands qui auraient débarqué. Puis il incorporait aussi des plus jeunes. Il y avait comme les vieux, puis il y avait des... Parce que mon grand-père avait 15 ans à l'époque. Puis il donnait un uniforme. Puis il surveillait le fleuve.
Alexander Jerome Senior. Terrain des deux guerres.
Il était localisé, c'est ça. Il était.
Lui, il venait de Gaspégiag. Ouais. Puis durant la Première Guerre mondiale, il a participé à tous les engagements à partir de Vimy, à partir d'avril 1917 jusqu'à la fin. 11 novembre 1918, lui...
Mais il était positionné où durant la Deuxième Guerre mondiale?
Durant la Deuxième Guerre mondiale, ici en Gaspésie.
OK.
C'est ici en Gaspésie.
Il y a des gens qui ont fait les deux guerres, qui, eux, étaient positionnés à Farnham, qui s'occupaient des camps de... Puis il y a un cousin, M. Fabien Sinette, je pense qu'il était en Alberta, dans un camp aussi. De...
OK. Ouais. Puis il y en a aussi qui ont vu du combat dans les deux guerres.
Des Gaspésiens?
Ben oui. Pour revenir à Frank Nassé-Géron, donc le début de sa carrière dans les tranchées se passe un peu sans histoire. Lui, il faisait partie d'une section de mitrailleuse Lewis, le Lewis Gun. Mitrailleuse Lewis, je vous demande de vous servir un peu de votre imagination. Imaginez un fusil, si on veut, là. Et puis sur le dessus, il y a un
chargeur.
Un chargeur qui qui est de forme ronde.
Qui ressemble à une grosse assiette à pizza.
Remplie de balles de 303, de cartouches de 303, qui sont la même calibre, exactement pareil que les cartouches qui se retrouvent dans la carabine Lee Enfield.
Qui a trouvé place après les guerres dans une quantité phénoménale de maisons gaspésiennes. Tout le monde disait mon grand-père a une carabine de la guerre.
Grosse différence entre la mitrailleuse Lewis et la Lee Enfield 303. La Lee Enfield 303 était limitée. C'était essentiellement un coup à la fois. C'était pas semi-automatique, c'était un coup à la fois. Il fallait recharger chaque cartouche de façon indépendante.
Là. Avec un chargeur très limité.
Et donc, le rate of fire, la cadence de tir, si on veut, était limitée par l'habilité de quelqu'un d'opérer la carabine. Tandis que la mitrailleuse Lewis, dans des conditions idéales, 600 cartouches la minute. 600 par minute. Ça va vite, là. Pour une section de Lewis, la mitrailleuse Lewis, dans les conditions idéales, on parle d'un équipage de 4 personnes. Pour justement la faire, ça prend quelqu'un là, pour amener les magasins de cartouches.
Parce que les chargeurs devaient avoir
les
un
chargeurs,
poids.
Les chargeurs, c'est ça.
Devaient avoir un poids.
Frank Nassé Jérôme participe à la bataille de Vimy, Cause 70, Passchendaele, tout ça. Et puis, là, on se retrouve 2 septembre 1918 jusqu'à la fin de la guerre. On appelle ça les 100 jours du Canada. Les 100 derniers jours de la Première Guerre mondiale, le Canada a fait une avancée phénoménale. Le Canada était reconnu comme étant, en anglais, on utilise le terme « shock troops ». C'était le corps canadien. On reviendra à la composition du corps canadien. Mais essentiellement, le corps canadien, durant la Première Guerre mondiale, c'était qu'on avait regroupé tous les Canadiens ensemble. Ça a pris du temps avant que ça se produise, mais éventuellement, on a regroupé tous les Canadiens ensemble sous le commandement d'un général canadien. La bataille de Vimy est le premier engagement où le corps canadien agit ensemble. Tous les Canadiens se retrouvent ensemble. La bataille de Vimy, c'est la première fois. Mais on était sous commandement d'un général britannique, le général Byng, qui allait devenir gouverneur général du Canada suite à la guerre. Côte 70, qui Vimy, c'est avril 1917. La Côte 70, c'est août 1917. Août 1917, c'est la première fois où le corps canadien agit sous le commandement d'un général canadien, le général Curry. Pour revenir à Frank Narcisse Jérôme, Frank Narcisse Jérôme a la distinction d'avoir été décoré pour bravoure à 3 occasions. On a parlé tout à l'heure de la Croix de Victoria. L'ordre des décorations, si on veut, là. C'est la médaille militaire. Après ça, c'est le Distinguished Conduct Medal. Et puis après ça, c'est la Croix de Victoria. La médaille militaire est accordée pour, justement, là, sa bravoure face à l'ennemi. Là. Frank Nassé Jérôme a la distinction d'être un des seuls 37, il y en a seulement 37 au Canada qui tombent dans cette catégorie-là, là, qui ont reçu la médaille militaire à 3 reprises. Et puis ça en fait, le Frank Nassé Jérôme, le soldat des Premières Nations le plus décoré de l'histoire militaire canadienne, à Gaspésie. C'est pas banal du tout.
Pas assez souligné.
Pas assez souligné, certain. Il y a une couple de raisons pour ça. Une chose qu'il faudrait peut-être mentionner, c'est que le sergent Jérôme, Frank Nassé Jérôme, est devenu sergent, qui est quand même un accomplissement remarquable si on se remet à l'époque. Là. On retourne 100 ans en arrière avec le racisme qu'on connaît et tout ça. On peut s'imaginer comment que ça n'a probablement pas toujours été facile pour lui, le sergent Jérôme. Sergent Frank Narcisse Jérôme, le soldat des Premières Nations le plus décoré de l'histoire militaire canadienne, venait de Gaspésie. Après la guerre, parce qu'on peut s'imaginer que quelqu'un comme ça, avec ce CV-là, au retour de la guerre, s'il demeurait à Montréal ou à Toronto, sans nécessairement être un héros que tout le monde saluait dans la rue, avait quand même un certain statut, là. Certainement un certain statut à l'intérieur des institutions comme la Légion canadienne ou son ancien régiment. Mais tandis que Frank Nassé Jérôme, lui, a tout simplement retourné à Gaspésie et a repris un peu sa vie comme ça l'était avant. Là. Ce qui était un peu triste, pas d'autre façon que je peux trouver là, pour exprimer ça, mais c'est un peu triste de voir dans son dossier, justement, là, qu'il redevient un peu dans la sous le contrôle, si on veut, dans ce temps-là, il y avait quelque chose qui s'appelait l'agent des Indiens. Les Micmacs qui demeuraient sur la réserve, oui, il y avait le leadership traditionnel, là, si on veut, là, le chef et le conseil de bande et tout ça. Mais par contre, c'était sous le joug.
Il y avait une suprastructure qui était contrôlée par le gouvernement fédéral.
Exactement.
Au-delà, puis qui lui donnait finalement une petite latitude au conseil de bande pour faire les choses.
Oui, puis cette latitude-là, c'était essentiellement côté culturel, des choses comme ça, puis des dossiers qu'il ne voulait pas traiter, c'est pas compliqué. On va laisser ça au conseil de bande décider. Puis ce fonctionnaire contrôlait tout. Et puis il y a de la correspondance dans le dossier de Frank Nancy-Jérôme où il fait appel à l'agent des Indiens pour avoir accès à ses propres fonds, son argent à lui, là, pour faire l'achat d'un canot. Quand même, beaucoup de degrés d'ironie là-dedans. Là. T'sais, on parle d'un soldat décoré de la Première Guerre mondiale là, qui...
Mais qui est tributaire.
Ça dépend...
Qui est tributaire de quelqu'un.
D'un système.
Oui, exactement. Il y a aucune forme de reconnaissance.
Non, absolument. C'était juste un autre... Un autre Micmac?
Je sais que c'était pas mieux pour les autres.
Ouais.
On s'entend que la structure était... Mais quelqu'un...
Oui, c'est un peu ça que j'essaie d'exprimer de façon maladroite. Là. C'est que peut-être que c'est mon côté là, romantique, si on veut, là, par rapport à ce que je considère comme étant des personnages héroïques. Là. On peut débattre là, si c'est un héros ou non, mais on peut pas débattre le fait là, que t'as certainement quelqu'un avec un très grand degré de courage. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Une chose qui est impressionnante chez lui, c'est qu'il s'est fait décorer pour bravo à 3 reprises. Ça démontre quand même un pattern. Là. On peut peut-être tous s'imaginer dans nos rêves là, ou dans nos scénarios qu'on se construit, là, peut-être connaître un moment là, de bravoure tout ça, mais...
Trois fois,
là on peut pas douter de son courage. Puis le sergent Jérôme est décédé en 1934 à l'âge de 47 ans d'une pneumonie. Et puis dans son dossier, justement, ils font référence au fait qu'il y avait peut-être un lien entre les conditions dans les tranchées durant la Première Guerre mondiale et son décès à un âge relativement jeune, 47 ans, c'est... Et puis, c'est ça, il est enterré à Gaspépiguen. Et puis, tranquillement, pas vite, on a commencé, durant les dernières années, à certains efforts à faire connaître un peu son histoire. Là. On est en train de travailler sur une exposition et tout ça. Là. Mais ce qui est fun à voir et puis valorisant de mon côté, c'est que il est pas rare que je rencontre quelqu'un à Gaspépiguen. Puis quand on commence à discuter, parce que je veux pas, je suis connu pour ça, c'est toujours le fun d'entendre quelqu'un me parler du sergent Jérôme. Puis tu vois là, que les grandes lignes sont là.
Il y a une prise de conscience de l'incidence qu'ils ont joué. Puis... Tu sais, des role models.
C'est quand même important, là, comme tu dis, là, comme modèle. Il y a plein de leçons à apprendre à travers l'histoire du sergent Jérôme. Là. Puis je veux juste parler d'un dernier soldat de la Première Guerre mondiale. Par après ça, peut-être on ira à la deuxième. Un autre personnage quand même assez bien connu. Là, c'est une famille quand même assez bien connue dans la région de Gaspépiguen, justement. Milton Gideon. Ou si vous préférez, Milton Gédéon, de la communauté Micmac de Gaspépiguen. Lui, avant la Première Guerre mondiale, a fait partie de la milice pendant une courte période. On voit que c'était quelqu'un qui aimait les emplois là, avec un uniforme, parce qu'il a fait partie de la milice, puis il est aussi policier. C'est sinon le premier policier autochtone de Gaspépiguen, un des premiers. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, parce qu'on tourne quand même là 100 ans.
Il y en avait peu en Gaspésie, point, là, ouais, à l'époque. C'est ça. C'était pas de quoi guider.
Exactement. Puis lui, s'est retrouvé justement en Europe. Puis il s'est retrouvé dans le même bataillon que Frank Nancy-Jérôme.
Par hasard? Oui. Par association.
Non, c'était un heureux hasard. Donc il s'est retrouvé, comme je dis, dans le 14e bataillon, le Royal Montreal Regiment, côte à côte, là, avec Sergent Jérôme. Puis ça, on sait pas, là, je veux dire, en tout cas, moi, je le sais pas, mais j'imagine qu'il devait avoir quand même une complicité entre les deux. Je veux dire, ils viennent de la même communauté qui se retrouve au combat en Europe. Puis lui, il a été blessé, il a reçu une balle de mitraillette dans la cuisse gauche. Il a été chanceux
dans sa malchance,
ou comme on dirait en Gaspésie, chanceux dans sa bad luck. Là, dans le sens qu'il n'y a pas eu de dommage au fémur, il n'y a pas eu de dommage au nerf. C'était simplement ça a passé de bord en bord dans le muscle de la cuisse. Il a conservé des séquelles parce que lui a vécu quand même assez vieux, Milton Gideon. Donc, il existe toujours des gens qui se souviennent de lui. Tandis que Frank Nancy Jerome, vu qu'il est mort en 1934, il n'y a personne de vivant aujourd'hui qui se rappelle de lui. Il y a peut-être des gens à Gascapéga qui étaient vivants. 1934, ça fait 86 ans quand même. Mais Milton Gideon, lui, a vécu, je ne sais pas s'il s'est rendu à 80, mais des 70 avancés, certains. Et puis, il a repris son retour d'Europe. A repris son emploi comme policier. Donc, beaucoup de gens qui se souviennent de lui comme policier. Je me suis fait dire que c'était quelqu'un qui boitait quand même de façon importante, qui serait normal parce qu'il avait été blessé. La Première Guerre mondiale, ça ressemblait à ça en termes des Micmacs de la Gaspésie, Gaspé-Gawagi.
De Gaspé, on n'a pas...
Non, mais de Gaspé... malheureusement, je suis pas trop au courant par rapport à la Première Guerre mondiale. C'est certain que...
C'est beaucoup plus complexe à Gaspé parce qu'il n'y avait pas de structure.
Il n'y avait pas de communauté comme telle. Il n'y avait pas de réserve là, pour utiliser la terminologie. Là.
C'est ça. Puis la nation Micmac de Gaspé va vivre à partir des années 70-80.
C'est ça.
Il faudrait y aller par déduction au niveau des noms de famille.
Ouais.
Ça serait peut-être la meilleure façon de...
Puis corrige-moi si je me trompe, parce que je suis certain que là je suis plus dans ton champ d'expertise que le mien. Là. Mais si je comprends bien, les Mi'kmaq de Gaspeg sont de façon majoritaire francophone, c'est ça?
En grande...
C'est ça.
On pourrait dire 2/3, 1/3, okay. Puis peut-être 3/4, 1/4. Okay.
Puis durant la Première Guerre mondiale, essentiellement, de Gaspé, c'était... Gaspé était une ville anglophone à l'époque. Là. Parce que si on regarde ceux qui sont décédés au combat de Gaspé durant la Première Guerre mondiale, à ma connaissance, il y en a deux francophones. Il y a Fournier, dont son prénom m'échappe, ça va m'en revenir.
Sûrement de Saint-Majoric.
Oui, exactement. Puis lui, il faisait partie du Black Watch. Je parlais du Black Watch tout à l'heure. Il y avait lui. Puis il y avait Rodrigue Lemieux, qui était le fils de notre député fédéral à l'époque. Ça fait que lui, je ne sais pas s'il a vraiment été élevé à Gaspé, mais de toute façon, son nom se retrouve sur le cénotaphe ici, à Gaspé.
Le cénotaphe étant le monument qui porte les noms des combattants qui sont tombés au combat durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale.
Exactement.
Est-ce qu'il y en a d'autres?
Oui, bien...
On a perdu le Corée?
Corée, il y a au moins un soldat de Gaspé qui est mort, à ma connaissance. Un soldat de Gaspé qui est mort durant la guerre de Corée, c'était... son nom de famille, c'était Couillard.
De Lanceur Griffon.
Et puis, évidemment, sergent Greg Cruz, Afghanistan.
De la famille...
Cruz de Gaspé.
Qui avait les entrepôts, je pense, sur la pointe Ouara, qu'on connaît maintenant sous le nom de Berceau du Canada.
Greg Cruz est un an ou deux plus jeune que moi. Puis il s'est enrôlé après moi. Puis en tout cas, il s'est retrouvé en Afghanistan, mais il a perdu la vie.
Il y a aussi une fille relativement jeune des méchants qui est décédée.
Caporal Karine Blais.
Parce qu'il y a un monument maintenant dans le centre.
Oui.
Quand vous passez devant, dans les méchants.
Justement, puis j'inviterais les gens qui passent par là à arrêter deux secondes à visiter ce petit parc. C'est un beau point de vue sur le fleuve. Ouais. Caporal Karine Blais, je crois qu'elle avait seulement 21 ans, toute jeune, tragique.
Tombée explosion sur un véhicule de transport, ouais. C'est ça.
Improvised explosive device.
C'est qui était la force des Afghans.
Ouais, c'est ça.
Car ils n'ont pas peu de structure. La guérilla.
Une fois que la Deuxième Guerre mondiale
commence. Et c'est ça, le point qui m'a. S'il n'y a eu aucune forme. Parce qu'on pourrait penser que comme il y avait des héros décorés de la Première Guerre mondiale, mais comme il y a eu une espèce d'atténuation de l'ensemble de l'œuvre ou de non-mémoire, ça n'a pas créé l'engouement pour la Deuxième Guerre mondiale.
Puis durant la Deuxième Guerre mondiale, je suis pas prêt à dire qu'il y avait nécessairement un enthousiasme à la Première Guerre mondiale, mais les nombres sont moindres durant la Deuxième Guerre mondiale. Puis je peux penser spécifiquement, par contre, à trois jeunes qui me viennent à l'esprit. Il y en a deux de Listigouche, Frank Method et Pat Metallic. Eux se sont retrouvés dans les rangs des Royal Rifles, Royal Rifles of Canada, qui se sont bataillés de Hong Kong.
Et eux, qu'en était devenu de eux dans cette bataille-là? Spécifiquement, ouais. Je pense pas qu'on a parlé dans le podcast.
En fait, puis je vais rajouter le troisième, tant que
Oui.
Le troisième, c'est Henry Martin, qui est originaire de Guescapéguerre. Donc, ces trois jeunes hommes se font recruter dans la vague de recrutement l'été 1940 des Royal Rifles of Canada, qui a eu lieu ici en Gaspésie. Là. 203 jeunes Gaspésiens qui se sont retrouvés dans les rangs de cette unité. Donc, pour faire une histoire longue, un petit peu plus courte, ces trois jeunes hommes ont participé à la bataille de Hong Kong, qui a eu lieu à la fin 1941. Et puis, les trois ont survécu la bataille et puis se sont retrouvés prisonniers pendant 44 mois, où ils ont souffert...
Joug japonais.
Oui, ils ont souffert de conditions exécrables, de malnutrition, abus physiques, abus psychologiques, etc. Heureusement, ils ont survécu tous les trois, et puis sont revenus au Canada.
Ils sont installés à quel endroit?
Ils se sont installés dans leur communauté respective. Pat Metallic et Frank Method ont retourné à Listigouche, près de Campbellton, Pointe-à-la-Croix. Et puis Henry Martin est retourné à Guescapéguerre. Donc, ils ont survécu la guerre. Ils ont vu des vies paisibles. Je crois que Pat Metallic avait quelque chose à faire avec lui aussi, les forces de l'ordre là, à Listigouche.
Parce qu'il va reprendre, c'est ça, il va reprendre l'uniforme lui aussi.
C'est ça. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que lorsque le pays, si on veut, là, a fait appel à la population, aux jeunes, de se porter volontaire pour le service militaire, c'est certain que les Mi'kmaq de la Gaspésie ont toujours répondu présent, puis de façon volontaire. C'était pas des conscrits. Quand on considère aussi là, tout le système, le colonialisme, le racisme, etc., mais on peut se demander...
C'était quoi les motivations?
Ouais,
derrière le...
Merci. Ouais.
Parce qu'ils sont ça, dans une espèce de microcosme à l'extérieur de ce qui est la réalité. Parce que les réserves, c'était comme un peu une bulle dans la Gaspésie. Puis ces gens-là, tout à coup, sont d'intérêt.
Oui, ben oui, parce qu'ils sont jeunes, mais ils sont capables d'être soldats.
Puis pour le sergent Jérôme, il va répondre présent en recevant les trois décorations qu'il va avoir... Fait qu'il n'y a pas... c'est complexe comme...
Oui, puis on peut pas faire abstraction là, de ce qu'on vit aujourd'hui là, en termes de toute cette situation-là par rapport à le rapport de la communauté gaspésienne at large. Là.
Personnellement, pour avoir vu à Gaspé, prise de conscience-là, la prise de conscience du fait Mi'kmaq, l'installation du centre d'interprétation, le nouveau centre, il y a comme de quoi de magnifique dans le cheminement présentement. Puis de montrer aux autres, ben on était là, puis on fait partie.
Moi, ce que je trouve intéressant, du côté personnel, si on veut, là, que dans mes travaux là, en termes de recherche par rapport à l'histoire militaire puis de la préservation du patrimoine militaire gaspésien, que j'aime particulièrement avec mes partnerships là, avec les Mi'kmaq, spécifiquement de Guescapéguerre, c'est le fait que... En fait, c'est pas unique au Mi'kmaq, dans le sens que... Parce que la population, en général, par rapport à l'histoire militaire, le degré de connaissance, c'est approximatif. Là. Mais je veux dire, c'est pas nécessairement... pour le commun des mortels, c'est pas nécessairement des questions sur lesquelles ils se posent beaucoup de questions.
Il y a beaucoup de gens qui vont dire « J'ai mon grand-père qui y était, j'ai mon père qui y était, j'ai mon oncle qui y était. »
Ouais.
Puis même quand tu dépasses le fait qu'ils ont été, tu dis « Oui, ils étaient où? »
Oui, c'est ça.
Ben, ils étaient en Europe.
Oui, c'est ça. De voir la communauté un peu prendre les rênes de ça, là, de se l'approprier leur propre histoire, c'est le fun à voir, puis c'est valorisant. Donc, peut-être en terminant, j'inviterai les gens qui vont passer du côté de Guescapéguerre, municipalité qui se trouve entre New Richmond et Carleton, tout près de Maria. Ils ont un centre d'interprétation qui est annexé à l'église Kateri Tekakwitha. C'est au cœur de la communauté. Facile à trouver. C'est une structure qui est dans la forme d'un tipi ou d'un wigwam, dépendamment. Et puis, à l'intérieur de cet édifice, il y a une exposition, justement, qui s'appelle « Les soldats de Guescapéguerre de la Grande Guerre », qui explique un peu là, tout ce qu'on vient de raconter. À l'intérieur de cette exposition, justement, on pourrait observer, voir un uniforme réplique, justement, du sergent Jérôme, avec toutes les médailles et toutes les insignes qui racontent un peu l'histoire des soldats autochtones, non seulement de Kiskapégag, mais du Canada, en fait.
Oui, parce qu'il y a sûrement d'autres membres des Premières Nations qui ont fait le...
Absolument.
Alors, c'était le mot de la fin de Tom. Merci encore des millions de fois, Tom, d'avoir participé. Tom Eden, d'avoir participé à...
Merci beaucoup, Félix. Ça a été une très bonne opportunité, puis je suis bien content d'avoir participé.
Je remercie du fond du cœur tous les auditeurs, mais spécifiquement ceux qui ont pris la peine de m'en parler quand ils me rencontrent. J'ai vécu des moments, des gens qui m'ont dit « J'ai telle chose chez nous, j'ai un cadre, mon grand-père avait un livre de bord. » Ou simplement... juste ce contact-là avec... Puis les gens me disent « Mon grand-père m'a dit » ou « Mon père m'a dit » qui a permis de meubler ce podcast sur la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale.
La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale est une production de Radio Gaspésie avec le soutien financier du Fonds canadien de la radio communautaire. À la recherche et à l'animation... Félix Fournier. Merci à son invité, l'historien Tom Eden. À la réalisation, Émilie Gagné. Un merci particulier à l'ensemble des Gaspésiens du Royal Rifle of Canada et leurs familles pour les témoignages.